Et le journal vous est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Le grand débat national destiné à répondre aux attentes des Gilets jaunes fait de plus en plus débat. Doit-il être cadré ou est-ce que tous les sujets peuvent être mis sur la table ? Analyse dans un instant de Stéphane Robert. Nouvelle action de l'association des victimes de l'amiante en déposant une citation directe collective devant le tribunal correctionnel de Paris. Elle espère obtenir un procès des responsables nationaux du scandale sanitaire. Coup de froid entre la Turquie et les États-Unis. Pour Ankara, le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, John Bolton, a commis une lourde erreur en demandant la protection des miliciens kurdes alliés de Washington en Syrie. Le racisme anti-noir toujours vivace au Maghreb. La nouvelle Miss Algérie a dû faire face aux moqueries et aux insultes sur les réseaux sociaux. Le grand débat national doit s'ouvrir dans une semaine. Proposé par Emmanuel Macron pour répondre aux questions nées de la crise des Gilets jaunes, il doit permettre de faire émerger les sujets qui préoccupent le plus les Français. L'Association des maires ruraux de France, à l'origine des cahiers de doléances ouverts dans les mairies, souligne que pour l'instant, la principale préoccupation exprimée, c'est le pouvoir d'achat. Mais le débat permettra-t-il d'aborder toutes les questions ? Aucun thème ne sera interdit, a répondu Chantal Joanneau, qui est la charge d'organiser le débat. Elle se voulait rassurante, mais depuis, le débat sur le débat fait rage, Stéphane Robert.
Oui, de quoi pourra-t-on discuter précisément et jusqu'où pourra-t-on aller ? Ce sera l'objet principal des discussions qui auront lieu demain à l'occasion du séminaire gouvernemental organisé au Palais de l'Élysée. Et pour essayer de cadrer un peu les choses, quatre thèmes ont été délimités. 1. La fiscalité. 2. L'écologie. 3. L'organisation de l'État et des services publics. Et 4. La pratique de la démocratie. Mais déjà, on constate que ça n'est pas si simple, que ça commence à déraper et que l'exécutif a du mal à sortir des ambiguïtés. Par exemple, en matière de fiscalité, à la question « faut-il supprimer la taxe d'habitation pour tout le monde ou la maintenir pour les 20% des Français les plus riches ?» Cette question sera sur la table, a indiqué tout à l'heure l'Élysée, ce qui n'empêche pas le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, d'affirmer d'ores et déjà sa position sur la question. C'était ce matin au micro de Marie Viennot.
J'ai redit dimanche qu'il fallait aller au bout de la suppression de la taxe d'habitation. Mais vous souriez, mais comme visiblement il y a eu une incompréhension, je préfère la lever. Et cela n'interdit pas que ce sujet fasse partie du débat sur la fiscalité. Que vaudrait un débat sur la fiscalité et les dépenses publiques dont nous fermerions toutes les portes dès le départ et dont nous aurions décidé à l'avance de l'issue ?
Dès lors, la question est de savoir ce qu'on va faire de tout ce qui sera mis sur la table, de tout ce qui sera débattu. Le gouvernement, le président, la majorité, ont-ils encore leur mot à dire ? Auront-ils encore leur mot à dire ? Ou bien va-t-on soumettre toutes les questions qui seront soulevées aux Français à travers un référendum, un choix multiple, comme il semble que ce soit envisagé ? Par ailleurs, peut-on discuter de tout et soumettre toutes les questions à référendum ? Pour le nouveau patron des communistes, le député du Nord, Fabien Roussel, la réponse est oui. Il était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC.
Mais pourquoi pas
le mariage pour tous, par exemple, mariage pour tous.
Mais pourquoi pas sur tous les sujets, n'ayons pas peur de débattre.
Donc sur la peine de mort, vous seriez capable d'accepter un référendum ?
Mais bien sûr. Enfin, si les Français le veulent.
On voit cependant certaines voix qui commencent à s'élever, à s'inquiéter et à se récrier. Les associations qui ont milité notamment en faveur du mariage homosexuel. On ne va pas rouvrir le débat sur le mariage pour tous, explique-t-elle, et revivre les insultes, les menaces de mort qui se sont multipliées à l'époque. Ce sera la même chose vraisemblablement pour la peine de mort. Et plus globalement, la question est, peut-on discuter de tout, voter sur tout et donner force de loi à des considérations dictées par l'émotion de l'instant ?
Stéphane Robert. La collecte destinée à soutenir Christophe Détinger a été clôturée par la plateforme Litchi. Le site précise que les fonds collectés serviront uniquement à financer les frais de justice de l'ancien boxeur, toujours en garde à vue pour avoir frappé des gendarmes en marge d'une manifestation de gilets jaunes à Paris. Selon le Figaro, la cagnotte comptait ce matin plus de 117 000 euros, accompagnée de milliers de messages de soutien. Mais l'initiative s'est également attirée des critiques très virulentes. Bonsoir Maureen Suignard.
Bonsoir.
Initialement, la collecte devait durer plus de 40 jours, elle a été fermée à la mi-journée.
Et cela à l'initiative de Litchi, la plateforme qui s'est en effet retrouvée dans une position bien embarrassante. Dès l'apparition des premières critiques, le site a répété à plusieurs reprises n'être qu'un intermédiaire et ne jamais porter de jugement de valeur sur les thématiques des cagnottes. Dans ce cas précis, Litchi se justifie en précisant que tout citoyen a le droit à une défense et que les fonds récoltés ne pourront être utilisés que pour payer les frais d'avocat. Mais cela n'a pas empêché la multiplication multiplication des réactions de la part des internautes, des politiques et des syndicats de policiers en particulier, Alliance, qui qualifie cette collecte d'indigne et qui voit là une forme de légitimation de la violence. Face à cela, Litchi a donc musclé sa réponse et décidé de mettre fin à la cagnotte, jugeant que les frais de justice seront déjà largement couverts. L'argent sera reversé sans intermédiaire directement sur le compte dédié de l'avocat et les fonds restants seront remboursés aux participants. Ce n'est donc pas tout à fait ce qui était prévu par l'initiateur de la cagnotte, qui se présente comme un ami de Christophe Détinger, qui souhaitait, je cite, « soutenir la famille et lui montrer la solidarité du peuple des Gilets jaunes ».
Une autre cagnotte est maintenant hébergée par Litchi, cette fois pour soutenir les membres des forces de l'ordre blessés lors des manifestations des Gilets jaunes. Lancée par Renaud Muselier, le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle comptabilise pour l'instant un peu plus de 89 000 euros. Un gendarme qui commet une infraction en mission de maintien de l'ordre doit-il relever de la justice militaire ou ordinaire? Cette question est posée au Conseil constitutionnel par la famille de Rémi Fraisse, ce jeune militant écologiste tué par une grenade offensive sur le barrage de Sivens en octobre 2014. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Dans ce dossier, le gendarme auteur du tir a bénéficié d'un non-lieu il y a un an. Cette QPC, cette question prioritaire de constitutionnalité, est-elle susceptible de remettre en cause cette décision?
Avant de vous répondre, il faut d'abord rappeler le cadre légal actuel. Les tribunaux militaires n'existent plus depuis la loi du 21 juillet 1982, mais ils restent des juridictions spécialisées composées de magistrats civils à compétences particulières dans les affaires militaires pour examiner les infractions commises dans le cadre du maintien de l'ordre, et c'est important de le préciser, seulement dans ce cadre-là. Alors pourquoi gendarmes et policiers feraient-ils l'objet d'un traitement différent, contraire au principe d'égalité devant la loi, interroge aujourd'hui l'un des avocats de la famille de Rémi Fraisse, Patrice Pinozzi.
Dans notre droit, il existe encore des juridictions spécialisées en matière militaire qui sont compétentes précisément dans l'hypothèse où les forces militaires, dans le cadre du maintien de l'ordre, pourraient commettre une infraction. Ces juridictions ne sont pas compétentes, bizarrement, lorsque cette infraction est commise dans le cadre d'opérations de police judiciaire ou de police administrative, mais en cas de maintien de l'ordre, on reste avec des juridictions particulières et c'est ce dont nous demandons la suppression. Les juridictions militaires ont toujours fait mauvais ménage avec la démocratie et aujourd'hui il n'y a aucune raison pour que dans le cas de Rémi Fraisse ce ne soit pas des magistrats de droit commun comme n'importe quel autre type d'infraction qui puisse instruire et le cas échéant juger de la plainte qui a été déposée par la famille.
Le maintien de l'ordre, n'est pas une opération de police ordinaire, riposte le représentant du gouvernement qui demande lui au Conseil constitutionnel de rejeter la QPC en question. Selon lui, la spécialisation des juridictions de droit commun en matière militaire ne méconnaît aucune des exigences d'égalité imposées par la loi. Mais ce n'est pas l'avis de l'autre avocat de la famille de Rémi Fraisse. Ari Halimi déplore la manière dont a été menée l'instruction.
On a eu une instruction qui... À mon sens, c'est lamentable. Les juges ont systématiquement refusé une reconstitution. Il n'y a pas eu de reconstitution alors que c'est l'usage lorsqu'il y a mort d'homme. Le préfet, qui est l'autorité civile de commandement, celui qui a donné les ordres d'user et d'être positionné à cet endroit-là, cette nuit-là, n'a jamais été entendu et on a demandé à ce qu'il soit entendu. Les juges d'instruction ont refusé qu'il soit entendu. On a eu des gendarmes qui ont intimidé des témoins dans le cadre de l'enquête. On a eu des gendarmes qui ont enquêté sur des gendarmes. En soi, c'est déjà structurellement une problématique.
Le Conseil constitutionnel se prononcera jeudi prochain sur cette question qui prend aussi tout son sens au regard de l'actualité de ces dernières semaines. En ce qui concerne le dossier Rémi Fraisse, une décision d'inconstitutionnalité est susceptible d'annuler l'instruction et le non-lieu prononcé en faveur du gendarme. Voilà pour répondre à votre question Aurélie, et à condition que le Conseil constitutionnel décide aussi qu'elle soit applicable immédiatement, comme le demandent les avocats de la famille.
Florence Turme. Les victimes de l'amiante retrouvent l'espoir de traduire en justice les responsables présumés du scandale sanitaire. Des milliers de personnes vont lancer une action commune devant le tribunal de grande instance de Paris, avec le soutien de l'Association nationale des victimes de l'amiante et d'autres polluants, avec cette citation directe collective d'une d'ampleur inédite en France. Ils espèrent l'ouverture d'un procès pénal d'ici un an et demi à deux ans, Pauline Renoir.
Un an et demi ou deux ans d'attente, c'est peu au regard des 22 années qui viennent de s'écouler depuis la première plainte déposée en 1996. Aujourd'hui, les victimes de l'amiante veulent accélérer le temps de la justice. La citation directe est la solution. Elle permet de faire comparaître un responsable présumé sans passer par une instruction. Michel Parigo est le vice-président de l'Association nationale des victimes de l'amiante.
Ce n'est pas des juges d'instruction qui font l'enquête, ce n'est pas le parquet qui poursuit, c'est nous-mêmes, c'est les victimes avec leurs avocats qui vont amener les preuves et plaider. La stratégie, c'est une citation directe collective, c'est-à-dire de revenir à l'idée originale de mettre toutes les personnes dans la même plainte, de ne pas découper, saucissonner, parce que les responsabilités de l'affaire de l'amiante, ce sont les responsabilités nationales. C'est cette structure qui a été mise en place par les industriels et qui a fait qu'on n'a pas interdit l'amiante, qu'on n'a pas pris de mesures de protection.
Et des milliers de victimes vont se lancer dans cette action, selon l'association AVA, entre autres les travailleurs des chantiers navals Normed à Dunkerque, ceux du campus de Jussieu, des victimes qui attendent depuis des années, selon Michel Parigo.
Pour nous, c'est très très important. Il y a des gens qui souhaitaient ce procès pénal, à qui on a promis il y a de nombreuses années déjà qu'il y aurait un procès pénal, et ces gens sont décédés. Donc on estime qu'on a la responsabilité de faire qu'il y ait un procès pénal pour ces personnes.
L'association AVA assure pouvoir présenter de nouvelles preuves, des preuves indispensables pour mettre en œuvre une citation directe. L'association compte aussi mettre en cause des protagonistes qui n'ont jamais été mis en examen auparavant.
Deuxième journée du procès du cardinal Barbarin et de cinq autres prévenus à Lyon. Ils sont accusés de ne pas avoir dénoncé les agissements d'un prêtre accusé de pédophilie. Cet après-midi, les juges ont entendu les plaignants, et notamment Laurent Duverger, qui a longuement raconté à la cour les abus sexuels dont il affirme avoir été victime. À Lyon, le récit de notre envoyé spécial, Antoine Marette.
Laurent Duverger a 50 ans, marié et père d'un enfant. Il s'avance à la barre et prévient la présidente. Je vais lire le témoignage de ce que j'ai subi. Ce sera un peu long, ajoute-t-il en s'excusant presque. Le ton est rapide, voire nerveux. C'est à 9 ans qu'il croise la route de Bernard Prénat pour la première fois au scout. On est en 1978. Un an plus tard, le prêtre l'emmène dans son bureau et selon Laurent Duverger, c'est là qu'a lieu la première agression sexuelle. Le début d'une longue série qui va durer 3 ans, précise le plaignant. Sur le moment, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Mon esprit se détache de mon corps. Je vis la scène de l'extérieur. Un interrupteur passe sur off dans mon esprit de petit garçon de 10 ans. Je vis la scène de l'extérieur. Laurent Duverger décrit les caresses, les embrassades, cette effroyable odeur de cigare froid et de transpiration qui le poursuit encore, tout comme cette forme de soumission au chef et les difficultés qu'il rencontre dans sa sexualité. Sa voix est parfois étranglée par des sanglots. C'est seulement à l'âge de 21 ans qu'il finit par se confier à sa mère, qui lui répond aussitôt « Tu n'en parles surtout pas à ton père ». La chape de plomb se referme sur ce terrible secret. En 2011, il est reçu au diocèse de Lyon. L'évêque auxiliaire lui affirme que Bernard Prénat n'est plus au contact d'enfants. En réalité, le prêtre restera au contact de mineurs jusqu'en septembre 2015.
Antoine Marette au tribunal correctionnel de Lyon. Donald Trump doit s'exprimer ce soir depuis la Maison-Blanche. Son bras de fer avec le Congrès a entraîné un shutdown, une paralysie partielle des administrations fédérales qui dure maintenant depuis 18 jours. Mais le président américain n'a pas l'intention de renoncer à son projet de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique pour faire cesser l'afflux de migrants. Grégory Phillips, vous écouterez l'allocution solennelle de Donald Trump ce soir. Ce sera la première depuis son arrivée au pouvoir. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qu'il va dire ?
Alors, ce qui est quasi certain, c'est que Donald Trump va parler d'une crise de sécurité nationale à la frontière. Ça, son vice-président Mike Pence a fait la tournée des télévisions américaines ce matin pour délivrer le message et puis dire que l'arrivée de ces migrants venus d'Amérique latine ou centrale provoque aussi une grave crise humanitaire. Ensuite, que peut annoncer Trump ? Trois possibilités. Un compromis avec les démocrates, ça paraît très peu probable. Le président veut son mur à 5 milliards de dollars. Les dirigeants démocrates ne veulent pas en entendre parler et les négociations sont au point mort. Deuxième option, déclencher une procédure d'urgence exceptionnelle qui en gros permettrait de lancer les travaux du mur sans passer par l'accord du Congrès. C'est ce que font les présidents américains quand la sécurité du pays est en jeu. Mais si Trump fait ça, la décision sera immédiatement contestée devant les tribunaux. Troisième piste enfin, Trump n'a rien à mettre sur la table et ce message à la nation est en fait destiné à mettre la pression sur les démocrates. On est dans une partie de bras de fer, Aurélie. Et d'ailleurs, l'opposition, Chuck Schumer et Nancy Pelosi ont demandé à toutes les chaînes de télévision un temps de parole parole équivalent, 8 minutes, pour répondre au président dans la foulée de son allocution.
Grégory Philips en direct de Washington pour France Culture. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, était en Turquie aujourd'hui pour des entretiens sur le retrait annoncé des troupes américaines de Syrie. Il a rencontré le porte-parole du président turc et des hauts responsables des ministères de la Défense, des Affaires étrangères et des renseignements. Mais pas de ministre, ni Recep Tayyip Erdogan lui-même, car le président turc est très en colère contre John Bolton. Les explications d'Anne Handlower à Istanbul.
Les tensions sont telles que, selon la presse turque, Recep Tayyip Erdogan aurait refusé de rencontrer John Bolton, qui en avait fait la demande, poussant le conseiller américain à quitter la Turquie un peu plus tôt que prévu, après avoir rencontré des officiels turcs de rang moins élevé qu'annoncé, sans faire la conférence de presse qui était programmée. Visiblement, Recep Tayyip Erdogan n'a pas du tout apprécié les déclarations de John Bolton le week-end dernier, lorsque le conseiller de Donald Trump se trouvait en Israël. John Bolton avait expliqué que les quelques 2000 soldats américains ne quitteraient la Syrie que si la Turquie promettait de ne pas attaquer les forces kurdes présentes sur place, les YPG, alliés de Washington dans la lutte contre le groupe État islamique. Réponse cinglante de Recep Tayyip Erdogan, nous ne pouvons pas accepter le message que Bolton a donné en Israël, nous ne pouvons pas l'avaler. Le dirigeant turc a notamment accusé le responsable américain de confondre les Kurdes de Syrie, qu'il a qualifiés de frères, et les milices kurdes des YPG classées terroristes par Ankara. Une très grave erreur, a insisté Recep Tayyip Erdogan, dont le pays réclame par ailleurs aux États-Unis qu'il récupère les armes fournies aux forces kurdes ces dernières années. Quant aux menaces d'intervention turque à l'est de l'Euphrate, qui semblaient en suspens depuis les annonces de Donald Trump sur un prochain retrait des États-Unis de Syrie, Recep Tayyip Erdogan a été clair. « Nous passerons à l'action très bientôt », a prévenu le dirigeant turc, affirmant que son armée avait terminé ses préparatifs à la frontière turco-syrienne.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a débuté aujourd'hui une tournée marathon au Moyen-Orient. De passage à Amman, il a appelé les alliés régionaux des États-Unis à poursuivre le combat contre les djihadistes et contre l'Iran, et ce malgré l'annonce du retrait américain de Syrie. La cyberattaque massive visant des responsables politiques allemands était l'œuvre d'un étudiant de 20 ans. Des données relatives à des centaines de personnalités publiques, y compris la chancelière Angela Merkel, ont été publiées vendredi dernier. La ministre de la Justice avait alors parlé d'attaque contre la démocratie, mais le gouvernement lui-même s'est retrouvé en difficulté, accusé d'incurie dans la lutte contre la cybercriminalité. Ludovic Piétenu, alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce jeune homme qui a été interpellé dimanche ?
Eh bien, ce jeune homme a tout avoué, il a agi seul, il vit encore chez ses parents près de Francfort, il n'a aucune formation particulière en informatique, si ce n'est qu'il a acquis en autodidacte de solides connaissances. Il a été arrêté dimanche puis relâché hier, les autorités considèrent qu'il coopère et qu'il n'a aucune raison de fuir. Il dit avoir été agacé par les propos de ses victimes, des personnalités de la classe politique, à mesure qu'il révélait au mois de décembre sur Twitter leurs données personnelles ou professionnelles, un jeune homme irrité donc par leur propos, mais qui n'aurait pas nécessairement agi au départ pour des motifs politiques. C'est un élément qui doit encore être éclairci, a dit tout à l'heure le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, car tous les partis politiques ont été visés dans cette histoire, sauf la formation d'extrême droite AfD, a bien rappelé le président de l'administration en charge de la sécurité informatique, Arne Schönbaum.
Au total, 994 personnalités politiques ont été visées. Pour la CDU et la CSU, cela concerne les données de 425 personnes, pour le SPD, 318, pour les Verts, 111 élus, et enfin 28 libéraux du FDP et 112 élus du parti de gauche Die Linke.
Ce n'est pas la première fois que l'Allemagne est la cible d'une attaque informatique, mais celle-ci est d'une envergure jamais encore atteinte. Le gouvernement, très critiqué, promet donc une nouvelle loi pour renforcer la sécurité informatique du pays.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin. La nouvelle Miss Algérie doit faire face à une avalanche de commentaires racistes. C'est la première fois qu'une jeune femme à la peau foncée est élue Miss dans le pays. Khadija Benhamou est originaire du sud algérien. Devant la polémique déclenchée par son élection, elle ne se démonte pas. Elle a aussi reçu de nombreux messages de soutien, Valérie Crova.
Que Dieu montre le chemin à ceux qui me critiquent et préserve ceux qui m'encouragent. La nouvelle Miss Algérie a choisi de répondre par cette jolie phrase aux commentaires racistes qui inondent la toile et qui la traitent parfois de mulâtresse. Parce qu'elle a une peau d'ébène, certains de ses compatriotes considèrent qu'elle ne représenterait pas la beauté des femmes algériennes. C'est oublier que l'Algérie est en Afrique et qu'elle partage ses frontières avec 7 pays, rappelle un internaute. La jeune femme, qui était jusqu'à présent hôtesse d'accueil dans un restaurant d'Alger, est native d'Adrar, une ville située à 1400 km à l'ouest de la capitale, aux portes du Sahara. Dans un éditorial publié sur un site d'information algérien, un journaliste prend sa défense. On voudrait réduire l'Algérie à Alger et à ses grandes villes comme Oran ou Tlemcen. L'Algérie est un pays continent, un peu comme l'est le Brésil, avec toutes ses populations, écrit-il. Tandis que d'autres dénoncent le racisme anti-noir au Maghreb, amplifié par l'arrivée de nombreux réfugiés venus d'Afrique subsaharienne.
Demain mercredi, le temps sera généralement sec mais très nuageux. Dans l'Est, il y aura des chutes de neige jusqu'en plaine. Demain matin, il y aura donc de petites gelées dans l'Est. Il fera de 1 à 8 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, les températures atteindront 1 à 13 degrés, 9 à 13 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.